Voisine. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les familles nombreuses en question. Sont-elles une source d'épanouissement ou d'appauvrissement? Ou les deux d'ailleurs? En France, près d'une famille sur cinq est une famille nombreuse, c'est-à-dire de 3 enfants et plus. Sur le continent africain, avec une moyenne de 5 enfants par femme, la famille nombreuse demeure la norme, en décalage d'ailleurs avec le reste du monde. Nous allons en discuter avec nos invités démographes, Isabelle Robert-Beaubeu, qui est chef de la division enquête et études démographiques à l'INSEE. Bonjour.
Bonjour.
L'INSEE, c'est l'Institut français de la statistique. Jean-Pierre Guingamp, également démographe économiste. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes au téléphone avec nous et vous êtes un universitaire de Paris 1 Sorbonne et spécialiste de la démographie en Afrique. Merci d'être avec nous de si bon matin parce que vous êtes actuellement en Guadeloupe où il est vraiment très très tôt. Nathalie Lacombe-Mérian, bonjour.
Bonjour.
Vous appartenez à la Fédération Jumeaux et Plus, évidemment avec des jumeaux, des triplés. La famille s'agrandit assez vite, vous en savez quelque chose. Vous nous direz aussi comment sont perçues ces familles nombreuses en France. Et quant à vous, les voisins, appelez-nous, dites-nous quelle est la taille de la famille idéale dans votre pays, pour vous ou dans votre société, que vous soyez ou que vous soyez dans le monde. Je vous donne notre numéro de téléphone qui ne change pas du lundi au vendredi, 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages postés sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de donner aussi votre numéro de téléphone sur la page Facebook. Facebook, tout en contraste aujourd'hui pour cette question. Quelle est la taille idéale de la famille chez vous? Mohamed Atiès au Sénégal nous dit la taille de la famille idéale, mais ça dépend de la richesse du père. Si on est très riche, on peut se permettre d'avoir beaucoup d'enfants. Si tu veux, tu peux en avoir 30 ou 40. L'essentiel, c'est de pouvoir t'en occuper. C'est un père hein, qui parle. Honoré, N'Djamena, au Tchad, personnellement, je trouve que 3 enfants, c'est l'idéal. Gildas, à Braza, nous dit que la vie actuelle nous impose de limiter les naissances. J'opte pour une petite famille afin de prévoir le futur de mes enfants et de permettre à ma famille de subsister jusqu'au dernier jour de mon existence. Dieudonné, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'opte, moi, pour une grande famille. La petite famille n'est pas synonyme de richesse. Je me sentirais mieux lorsque j'aurais au minimum 4 enfants. Nicolas, à Ouagadougou, au Burkina. Nous sommes tous conscients de la nécessité de réduire la taille de la famille, car les ressources sont difficiles à obtenir. Une réponse de Sanoussi, qui est à N'Djamena, au Tchad. Tout le monde est ma famille dans mon village. Et cette famille est sacrée. Et puis, un message d'Oslo, de Mathilde, qui est en Norvège. En Europe, nous n'avons pas besoin de faire des enfants pour assurer notre vieillesse, puisque nous avons le système des retraites. Et c'est pourquoi le nombre d'enfants ici est assez bas. Personnellement, j'ai choisi d'avoir 2 enfants. C'est amplement suffisant, selon moi. Nous pouvons ainsi leur offrir une bonne éducation et leur consacrer du temps. Voilà, je vous donne maintenant notre numéro de téléphone. On a envie de vous entendre, de dialoguer avec vous. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Le monde est un village planétaire.
C'est un village mondial. Donc on est tous des voisins, tous ensemble.
On est unis dans la diversité.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose qui nous rapproche.
C'est l'amour, ça.
Voilà,
c'est
d'accord. L'amour.
Nathalie Lacombe-Mérian, vous qui faites partie d'une grande fédération d'associations, comment sont permis, sont perçues les familles nombreuses aujourd'hui dans un pays comme la France où la moyenne, la fécondité est autour de 2 enfants par femme, un tout petit peu moins maintenant?
Alors, tout spécifiquement concernant l'arrivée des multiples, des jumeaux ou des triplés, il y a un effet de sympathie immédiat dans le grand public. Et quand on se balade dans le quartier avec cette famille-là, on reçoit beaucoup, beaucoup de messages de sympathie. Ensuite, pour les grandes familles de 3-4 enfants, je crois aussi voir, détecter dans le regard de ceux qui nous croisent, de la sympathie bien sûr encore, mais aussi l'air de dire « oh, c'est beaucoup d'efforts ». C'est-à-dire que les Français ont tendance à savoir combien cela coûte en termes de mobilisation pour élever des enfants, s'occuper d'eux et en effet les amener jusqu'à des études et l'autonomie économique.
Oui. Isabelle Robert-Bobet, vous, en tant que démographe, la taille des familles en France et en chiffres, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Donc actuellement, on a une famille sur cinq avec enfants mineurs qui est une famille nombreuse, au sens où il y a trois enfants ou plus à la maison, dont au moins un à moins de 18 ans. Ça a diminué au fil des générations et au fil du temps, puisque dans les années 1990, on avait plutôt une famille sur quatre avec enfants mineurs qui était une famille nombreuse. Ce qu'on observe dans ces évolutions, donc une baisse de la proportion des familles nombreuses, mais c'est surtout parce qu'il y a moins de familles avec quatre enfants ou plus à la maison. Sur la fécondité, avoir trois enfants au cours de sa vie, exactement trois enfants, ça n'a pas beaucoup évolué au cours de temps. Ce qui a beaucoup changé en France, c'est avoir quatre enfants ou plus au cours de sa vie, où là, ça a beaucoup diminué.
La France reste une championne d'Europe des familles nombreuses ?
On a une proportion de familles nombreuses qui est relativement élevée en France par rapport à nos voisins européens. Et on a une fécondité qui est un peu différente de nos voisins européens. Si on prend par exemple les pays anglo-saxons comme la Grande-Bretagne, on a une proportion de familles nombreuses qui est assez proche de celle qu'on observe en France. Mais en termes de fécondité, on a un profil de fécondité qui n'est pas tout à fait le même que nos voisins anglo-saxons. Puisqu'en France, on a donc une part des personnes qui vont avoir trois enfants ou plus qui est relativement élevée. Et on a très peu de femmes, finalement, qui n'auront pas d'enfants au cours de leur vie. Alors qu'en Grande-Bretagne, on va avoir une fécondité moyenne relativement proche, mais avec, finalement, plus de personnes qui n'auront pas d'enfants au cours de leur vie.
En France, on continue d'avoir, donc vous nous le disiez, Nathalie Lacombe-Mérian, une image assez positive de la famille tribu, par rapport, notamment par rapport au reste de l'Europe, ou est-ce que finalement, ces familles nombreuses, quand elles existent ailleurs en Europe, bénéficient aussi d'une image positive, où ça devient, du coup, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, où le taux de fécondité est bas, ça, c'est regardé d'une façon tout de même assez comme si c'était une singularité.
Donc, ce qu'on observe surtout, c'est qu'en France, en fait, il y a comme des schémas ou des normes qui sont relativement fortes. Avoir exactement deux enfants, c'est un idéal pour un nombre important de personnes en France. Et on s'en démarque quand on en a trois ou plus. Dans d'autres pays, par exemple, si vous citez l'Allemagne, les schémas sont différents. Où on va plus être dans des modèles qui vont être autour de un enfant plutôt que deux enfants. Donc on a vraiment des schémas, des normes qui sont différentes et peut-être des acceptations ou des modes de vie qui sont différents dans ces pays.
Ouais. Nathalie Lacombe-Mérian, le poids de la récession économique, de la crise de 2008 sur les choix des familles, ça pèse aujourd'hui ou pas ? Vous avez le sentiment que...
Alors... Pour les familles de multiples, je crois que ce qui anime ces familles-là, c'est qu'elles veulent faire famille. Elles veulent faire famille nombreuse. Et la récession n'a pas véritablement chamboulé, je crois, la stratégie familiale. Pour autant, cela a rendu les choses difficiles pour tous les parents. Parce que accueillir des enfants, alors accueillir deux ou trois enfants en même temps, c'est difficile. Faire famille nombreuse, c'est difficile parce que la famille va être immédiatement impactée au niveau du logement. Les mètres carrés sont chers à l'achat, chers à la location, mais au niveau aussi des transports, comme la voiture. Une voiture familiale, ça n'a rien à voir avec une berline toute simple. Et puis très souvent, pour les mamans de multiples, il s'agit d'interrompre sa carrière. 71% des mamans de multiples interrompent leur carrière pour garder leur enfant.
Il faut bien préciser qu'évidemment, avoir des jumeaux, des triplés, ça ne se décrète pas. Hein, et que c'est l'arrivée de jumeaux, de triplés plus fréquent qu'autrefois, puisque ces grossesses sont souvent dues à des traitements médicaux, par exemple lorsque l'enfant se fait attendre. Hein, en fait.
Alors l'enfant peut se faire attendre et les traitements médicaux
donc,
peuvent
petite
amener,
stimulation voilà, médicale.
Amener les deux enfants en même temps. Dans notre réseau, nous avons souvent des familles qui avaient deux enfants et qui voulaient faire le troisième. Voilà. Et le troisième arrive à deux. D'où des familles tout à fait intéressantes en termes de taille. Et puis d'autre part, les mamans décident de faire carrière et peuvent reculer le moment d'avoir des enfants tout simplement. Alors, il se trouve que la nature étant bien faite, il y a un pic de gémellité autour des 37 ans de la maman. Et un premier enfant à 37 ans ou un deuxième enfant à 37 ans. Et c'est le bonheur d'avoir des multiples.
Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est pas toujours facile à concilier avec la carrière. Et puis, il y a aussi les familles recomposées qui agrandissent la taille des familles. On en parlera. Vous nous appelez les voisins, les voisines au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Avant de donner la parole à notre démographe qui est en Guadeloupe et qui est spécialiste de la démographie en Afrique, nous donnons la parole à une voisine à Libreville au Gabon. Bonjour Charline.
Bonjour Emmanuel.
Alors Charline, vous nous appelez pour nous parler de votre famille idéale, de la famille que vous avez envie de construire et que vous avez déjà commencé à construire, je crois,
oui,
en termes de taille d'enfants.
J'ai deux enfants en ce moment, je souhaiterais en avoir trois.
Vous avez deux garçons, c'est bien cela?
Oui, deux garçons.
Oui.
3 ans et 1 mois.
Ah oui, petit.
Pour moi, la famille, c'est le parent investit sur son enfant,
oui,
dont on le scolarise. On l'éduque, on l'élève, on le soigne. On fait tout pour qu'il trouve un boulot. Pour que demain, quand le parent est affaibli, lui, à son tour, arrive à s'occuper de ses parents.
Oui.
C'est comme ça chez moi, au Wallenten,
oui,
dans le nord du Gabon.
Mm-hmm.
Parce que l'enfant est une entreprise. On investit pour récolter demain.
C'est ça, l'enfant est une entreprise. Ce qui veut dire que pour là, vous prévoyez d'avoir 3 enfants, c'est ce que vous nous avez dit, hein, Charline. Donc, vous voulez faire un 3e enfant.
2 garçons, une fille.
2 garçons, une fille, voilà. Si le ciel vous récompense, parce que ce n'est pas forcément gagné pour le 3e d'avoir une fille, mais néanmoins, 3 enfants, c'est économiquement, c'est le calcul que vous faites pour parvenir ensuite à être aidé par vos enfants pour vos vieux jours, c'est bien ça?
Voilà.
D'accord. Parce qu'il y a des familles qui estiment qu'il faut plus d'enfants que cela pour pouvoir être aidé lorsque l'on est vieux.
Bon, il faut que ça suive aussi financièrement.
Oui.
Parce que moi, j'ai été élevée dans une famille de 5 par ma tante qui avait 4, j'étais la 5e.
Mmh.
Bon, du coup, j'avais une grande sœur, une petite sœur.
Mmh.
Ça fait que je n'ai pas vraiment d'amis parce que mes amis sont mes sœurs.
Oui. Mais donc vous aurez, a priori, vous aurez moins d'enfants que vos parents.
Ben oui, ils auraient moins d'enfants que mes parents parce que la vie devient difficile. Hein.
Oui. Votre mari est sur la même projection que vous, 3 enfants, il dit c'est bien?
Bon, lui, pour lui, 2, ça va.
Ah oui, 2, ça va. D'accord, donc c'est vous qui mettez un petit peu la pression pour le 3e, c'est ça? D'accord. Okay. Merci beaucoup, Charline, de nous avoir appelé. On va donner la parole à un démographe spécialiste de la démographie en Afrique, Jean-Pierre Guingamp. Vous êtes bien en ligne avec nous de Guadeloupe. La 4e conférence internationale sur la planification s'est achevée il y a quelques jours. À la lumière du témoignage de Charline, là, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la démographie en Afrique qui est longtemps apparu comme une démographie particulière par rapport à la baisse de la natalité globale dans le monde?
Oui, alors là, tout d'abord, je voudrais dire que dans ce type d'émission, évidemment, nous avons des gens qui sont connectés au téléphone, qui vivent en ville et qui ont des anticipations rationnelles.
C'est sûr qu'on n'a pas valeur statistique, hein, les voisins qui nous appellent, on est d'accord, oui.
Alors, lorsqu'on regarde l'ensemble des données à l'heure actuelle et quand on regarde par exemple des indicateurs tels que le nombre idéal d'enfants, dans la moitié des pays africains, le nombre idéal d'enfants indiqué par les femmes est de 5 ou de plus de 5. Mmh. Il est par exemple de 9 au Tchad, au Niger, etc. Et il est généralement supérieur à 4 enfants dans tous les pays, à part quelques pays d'Afrique australe. Et moi, je donne des conférences assez souvent en Afrique et je me souviens récemment encore, lors d'une conférence dans une université, des élèves de l'université, des jeunes filles, me disaient qu'elles voulaient 4 enfants. Donc 4, 5, 6 enfants et plutôt, voire plus, est plutôt la norme. Et ceci est corrélé, bien sûr, avec les niveaux d'éducation et le style de vie. Par exemple, les gens qui appartiennent aux segments les plus aisés de la population ont généralement 2 à 3 enfants de moins que ceux qui appartiennent aux plus pauvres. Ceux qui sont éduqués ont un peu moins d'enfants, mais les normes natalistes sont toujours très 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 prégnantes. Et les projections des Nations Unies indiquent, ce sont des projections et non pas des prédictions, que ça va baisser très très lentement.
Mmh. Pour quelle raison finalement ? Est-ce la raison invoquée par Charline qui nous disait on fait des enfants, c'est comme une entreprise, on investit pour pouvoir ensuite être payé en retour au moment de ses vieux jours, en l'absence de système de retraite viable sur le continent africain ?
Oui, alors ça c'est une raison, mais là Charline est l'exemple d'une jeune femme qui a réfléchi à la question et qui évidemment pour atteindre son nombre idéal d'enfants utilise la contraception, discute de ces affaires-là avec son mari, etc. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des femmes africaines. Alors de ce point de vue-là, il y a un chiffre absolument stupéfiant, en tout cas pour des gens qui ont des anticipations rationnelles comme Charline, c'est que lorsqu'on demande aux femmes africaines dans les diverses enquêtes qui ont été faites, est-ce qu'elles veulent avoir un enfant bientôt, est-ce qu'elles veulent un enfant plus tard, c'est-à-dire est-ce qu'elles veulent espacer ou est-ce qu'elles veulent s'arrêter, il n'y a seulement que 40 à 45% des femmes, ça c'est le maximum, qui donnent une réponse. C'est-à-dire que la moitié des femmes ne donnent aucune réponse, c'est-à-dire que c'est le mari qui décide, c'est Dieu qui décide, c'est la belle-mère qui décide, etc. Oui. Lorsqu'on pose la même question en Amérique latine et en Asie aujourd'hui, 80 à 90% des femmes répondent, c'est-à-dire qu'elles ont une anticipation par rapport à cela. Et je me souviens d'une visite sur le terrain il y a quelques temps, dans un village du Niger qui a la plus forte fécondité du monde, je demandais aux gens, mais pourquoi autant d'enfants alors que les gens qui ont des moyens pour les élever en ont moins que vous ? Et la réponse était, bon, les enfants c'est notre richesse, pourquoi vous voulez nous enlever cette richesse ? Alors, même s'il y a beaucoup de mortalité, etc., ça c'est une réponse d'homme, okay, les femmes généralement la réponse est un peu plus nuancée, mais les normes natalistes sont toujours très très prégnantes en milieu rural, mais aussi en milieu urbain.
Oui, oui. Je cite, alors attendez, juste pour étayer ce que vous nous dites en tant que démographe, Jean-Pierre Guingamp, effectivement, je citerai le témoignage d'Issa qui nous écrit d'Abéché au Tchad et qui nous dit « La richesse africaine, c'est la famille, elle favorise l'agriculture. Le nombre de champs que tu peux exploiter dépendra donc de la taille de ta famille. Mais par exemple, pour Loya qui est à Ouagadougou, en Afrique, la transition démographique passera par l'industrialisation et la modernisation des moyens de production. La petite famille, c'est le futur. Vous, en tant que démographe, vous prévoyez que ce sera un futur assez, en tout cas pas pour demain, hein, relativement lointain. J'entendais bien ce que vous nous disiez sur finalement le choix, hein, c'est-à-dire que les femmes ont peu le choix encore du nombre d'enfants qu'elles souhaitent. Mais le témoignage de Charline n'était peut-être pas, révélateur des stratégies des femmes sur le continent africain, où elle disait que c'était plutôt son mari qui avait envie d'avoir un enfant de moins. Si on regarde l'Europe, par exemple, Isabelle Robert-Bobet, entre l'homme et la femme dans un couple, est-ce que la stratégie, est-ce que le désir, le nombre d'enfants idéal est le même ?
Dans les études qui avaient été conduites, alors non pas par l'INSEE, mais par l'INED, qui est l'Institut National des Études Démographiques, il n'y avait pas une grosse différence dans les nombres idéaux. Ouais. D'enfants entre les hommes et les femmes. Il y avait plutôt des différences en fonction de l'âge, parce que les plus jeunes se projettent peut-être moins déjà dans le projet de la famille, mais on n'avait pas de grosses différences entre les hommes et les femmes.
Nathalie Lacombe-Mériand,
c'est un thème qui nous touche beaucoup dans notre mouvement, parce que j'ai l'impression qu'en Europe, les femmes expérimentent un modèle nouveau, c'est-à-dire qu'on choisit d'avoir des enfants. On croit qu'on va choisir le nombre d'enfants qu'on veut avoir. Et puis, on a des moyens de contrôler son corps, on a les moyens de s'entendre avec son conjoint, son mari. Et puis quand on décide d'avoir un enfant, ben, il ne vient pas. Et là, c'est un autre type de drame, c'est-à-dire que le désir d'enfant, qui n'est pas un droit à l'enfant, ça se construit et on a des parents, des familles en devenir qui sont en souffrance, ouais, qui attendent ces enfants-là.
Donc vous dites bien, on croit qu'on va choisir, mais et finalement, oui, partout dans le monde, est-ce qu'on choisit vraiment? On va reposer cette question, bien sûr, après le flash, qui est une question complexe du nord au sud. Vous restez avec nous, tous les trois, Isabelle Robert Bobet, Jean-Pierre Guingamp et Nathalie Lacombe-Merian. Les voisins, les voisines, bien sûr, vous nous appelez, vous êtes les voisines surtout, vous êtes quand même les principales concernées. Ne laissez pas les voisins parler à votre place. Quelle est la taille de la famille idéale pour vous? 33 1 84 22 71 71. Ben ça va de 1 à 30 enfants de toutes les réponses qu'on a reçues jusqu'à maintenant.
Autour de la question.
Voisine, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins, les familles nombreuses en question aujourd'hui. Famille nombreuse, famille heureuse, voilà, avec un grand point d'interrogation. C'est vrai que la question fait débat. Nous en discutons avec nos invités, Isabelle Robert Bobet de l'INSEE, Jean-Pierre Guingamp, démographe économiste Paris 1 Sorbonne, Nathalie Lacombe-Merian de la Fédération Jumeaux et Plus. Et pour vous, les voisins et les voisines, quelle est la taille de la famille idéale? 33 1 84 22 71 71. Il y a un message que je trouve assez intéressant de Bachou qui est à Lubumbashi dans le sud de la République démocratique du Congo, qui dit « Moi, j'aime bien les familles de 4 enfants, parce qu'on peut encore gérer son foyer correctement, avoir accès aux soins médicaux, permettre une scolarité correcte à tous ses enfants, et sous-entendu, ce que ne dit pas Bachou, mais sous-entendu, sans s'écarter trop finalement d'une tradition africaine. » Jean-Pierre Guingamp, qu'est-ce que vous pensez de ce message, de cet idéal de 4 enfants qui finalement concilierait l'idéal occidental et l'idéal africain?
Oui, je crois que c'est quelque chose d'assez répandu. Alors justement, dans les enquêtes que j'ai citées tout à l'heure, lorsqu'on regarde la moyenne des gens des femmes interrogées qui ont un niveau d'éducation secondaire ou plus, le nombre idéal d'enfants donné en Afrique est de 4.
Oui, c'est ça.
Pour celles qui ne sont pas allées à l'école, le nombre idéal est 6. Okay, donc il y a un aspect éducation, mais il y a aussi un aspect statut de la femme. Et ceci est valable pour la République du Congo, comme pour au Niger, au Tchad et tout un tas de pays. Et notre sœur de Ouagadougou disait que la maîtrise de la fécondité viendra avec l'industrialisation, je serais tenté de dire, mais elle viendra aussi surtout d'un changement de la place des femmes dans la société. Le statut de la femme laisse beaucoup à désirer dans la plupart des pays.
Ouais, pas seulement de la disponibilité de la contraception. Hein. On est bien.
Et la disponibilité de la contraception est un autre facteur, mais ce n'est pas du tout le seul facteur.
Ouais, ouais. Alors, laissons la parole à quelques auditeurs. Nous accueillons Moussa, qui nous appelle, tiens, justement, du Burkina Faso. Bonjour Moussa, vous avez 25 ans.
Oui, bonjour Emmanuel, j'ai 25 ans, je vis au Burkina et je souhaite avoir une grande famille.
Oui, c'est ça. Vous n'avez pas encore d'enfants, vous vivez dans la troisième ville du pays, à Kédougou. Et donc,
oui.
Vous souhaitez avoir combien d'enfants, Moussa?
Je souhaite avoir au moins 6 garçons et 2 filles, au moins.
Ah oui, c'est précis là, 6 garçons, 2 filles, oui. Pourquoi cela?
Bon, d'abord, j'aimerais avoir une grande famille avec beaucoup de garçons.
Oui.
Et les garçons, eux, ils vont porter le nom de famille. Bon, les filles aussi vont porter le nom de famille, mais lorsque les filles vont partir chez leur mari, elles porteront le nom de leur mari.
Oui.
Et pourtant, les garçons vont continuer à faire des enfants en notre nom, au nom de notre famille.
Oui. Mais ce nombre d'enfants, donc 8 enfants taille idéale pour vous, c'est lié par exemple à l'agriculture? Vous êtes en zone rurale, Moussa, je ne sais pas si vous travaillez dans l'agriculture ou pas du tout?
Non, je ne travaille pas dans l'agriculture. Je suis étudiant en sciences économie et gestion.
D'accord, oui.
Et bon, c'est pas concernant l'agriculture. Bon, moi-même, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille, à l'image de mon grand-père surtout.
Oui. Qui avait combien d'enfants, votre grand-père?
Bon, il a eu pratiquement 16 enfants.
Ah oui? Oui. Donc là, la transition démographique est en marche. Entre votre grand-père, 16 enfants, et vous qui prévoyez d'en avoir 6, il y a quand même une sacrée différence. Laissons la parole à Gabriel. Vous pouvez rester en ligne avec nous, Moussa, si vous le souhaitez. Gabriel, vous êtes à Cotonou, au Bénin. Bonjour, Gabriel. Allô, Gabriel. Êtes-vous au téléphone avec nous? Vous avez 30 ans. Et je crois que bon, la ligne de Gabriel coupe. Je crois qu'il n'a pas d'enfant, mais il a déjà une idée assez précise de ce qu'il planifie, de ce qu'il souhaite avoir. Alors bien sûr, les voisines, appelez-nous aussi, hein, parce que vous êtes quand même les principales intéressées. 33 1 84 22 71 71. Jean-Pierre Guingamp, concernant le témoignage de Moussa entre son grand-père et les projections que Moussa fait sur sa future famille, il y a une sacrée différence.
Ça, c'est le type de réaction typique que l'on entend en ville, mais effectivement, plus surtout dans les zones rurales. Alors, vous avez mentionné le travail des enfants qui est effectivement mentionné. Le problème, c'est que la place des enfants, est-ce que la place des enfants est au champ avec les parents ou est-ce qu'elle est à l'école? Et le problème, lorsqu'on discute de cela, c'est toujours l'avenir des enfants. Qu'est-ce que ces enfants-là vont venir? Alors, j'entendais récemment dans une des conférences que j'ai données, des gens réagir, mais notre pays a besoin de bras, l'Afrique a besoin de bras. Sauf qu'actuellement, 70 à 80% des jeunes occupent des emplois dans le secteur informel ou sont au chômage ou cherchent à émigrer. Donc le vrai problème, comme le disait notre correspondante au Gabon, c'est quel avenir on pense pour ces enfants. Et la société africaine est en train de changer les sociétés africaines sont en train de changer très très rapidement. Et le vrai problème qu'il faut se poser, c'est quand les femmes auront-elles droit à la parole? Actuellement, beaucoup n'ont pas droit à la parole en la matière. Et deuxièmement, quel avenir on envisage pour ces enfants?
Ouais. Et bien justement, les voisines, appelez-nous. Vous avez la parole en direct, tous les jours d'ailleurs, chez 7 milliards de voisins, au 33 1 84 22 71 71. En attendant, Alors, on a récupéré Gabriel. Nous vous écoutons à Cotonou, Gabriel.
Bonsoir, Emmanuel.
Ouais, on vous entend extrêmement mal. Alors peut-être qu'on peut avoir Cher qui nous appelle de Dakar en attendant.
Oui.
Bonjour Cher.
Oui. Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en direct, Cher.
Oui.
Allez-y.
Bonjour. Bonjour 7 milliards de voisins. Bonjour les voisins. Les voisines.
Alors vous avez grandi dans une famille de 3 garçons et une fille.
Oui, exact.
Oui.
Oui. On était peut-être peu nombreux par rapport à la culture qu'on a, la culture démographique qu'on a chez nous. Donc, généralement, c'est des familles de 8 à 9 qu'on voit.
Oui, c'est ça. Vous étiez 4 enfants, mais vos voisins autour de vous avaient plutôt autour de 9 enfants. Hein.
Généralement, oui. C'est des mamans qui faisaient 8 à 9 enfants. Ou 7.
Et quel est votre regard rétrospectivement sur l'enfance que vous avez eue et votre famille, finalement, relativement petite par rapport aux autres?
L'avantage peut-être que qu'on avait, c'est que nos parents pouvaient avoir l'œil sur nous. Ils pouvaient plus ou moins nous donner l'éducation requise. Ils avaient le temps de nous consoler parce qu'on n'était pas très nombreux.
Oui.
Même si par moment, on a pu aller, on était genre externalisés. Il y en a quelques parmi nous qui ont été légués à nos oncles, etc. Et tout. Mais de façon générale, la chance peut-être que nous avons, c'est d'être pas trop nombreux, plus quatre.
Oui, et de pouvoir faire des études. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je suis désolée, les lignes téléphoniques ne sont pas fameuses aujourd'hui. C'est lundi. Gabriel à Cotonou, êtes-vous en ligne avec nous?
Oui, je suis en ligne. Bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons.
Avant, au Bénin, la plupart des familles considéraient les enfants comme une richesse.
Oui.
Donc, ça fait qu'ils font plusieurs enfants. Pour eux, le lit de la pauvreté est féconde. Donc, il faut faire beaucoup pour les amener au centre. Mais actuellement, la vision de la famille est en train de changer ici, parce que la plupart des jeunes veulent construire les familles, veulent avoir un emploi.
Alors, Gabriel, vous n'avez pas d'enfant. Vous avez dit au Standard que vous ne souhaitez qu'un seul enfant. Vous ne craignez pas d'être très singulier tout de même chez vous, à Cotonou?
Non, pas du tout, parce que la nouvelle donne aujourd'hui, c'est pas avoir assez d'enfants, c'est pouvoir soutenir ces enfants-là jusqu'au moment où ils vont quitter les maisons. Donc, il faut les nourrir d'abord, il faut les soigner, il faut leur donner le nécessaire, quoi.
Oui, mais enfin, vous avez grandi avec 7 sœurs, donc autant dire que vous ne vous projetez pas du tout de la même façon que que la façon dont vos parents, vos propres parents, se sont projetés. Merci beaucoup, Gabriel, de nous avoir appelés. Globalement, je m'adresse à vous, Isabelle Robert-Bobet, la démographe pour la France. Est-ce que, quand on a grandi dans une famille nombreuse, la probabilité est plus importante d'avoir plus de 3 enfants ?
Ce qu'on observe en France, c'est qu'il y a différents facteurs du coup qui influencent le fait d'avoir soi-même une famille nombreuse. Il y a beaucoup le diplôme, on en a parlé avec les auditeurs, donc on observe qu'effectivement les femmes les moins diplômées ont plus d'enfants que les femmes les plus diplômées. Et on observe aussi des facteurs qu'on pourrait dire culturels, et notamment la taille de la fratrie d'origine. Et on observe effectivement que la probabilité d'avoir un troisième enfant, elle est plus grande si on est soi-même issu d'une famille nombreuse que si on était enfant unique. Donc comme s'il y avait une certaine aussi reproduction des schémas familiaux dans lesquels on a vécu.
Nathalie Lacombe-Mérian, alors évidemment dans le phénomène des grossesses gémellaires, quand on a des jumeaux, des triplés, c'est pas forcément d'ailleurs une caractéristique familiale, donc ça ne vient pas forcément donc d'un choix du fait qu'on ait grandi dans une famille nombreuse ou pas.
Absolument pas. Le fait d'avoir des multiples n'est pas lié. Il y a quelques familles où on peut tracer de génération en génération.
Mais parfois un plus grand désarroi des parents qui n'ont pas eux-mêmes grandi dans des familles nombreuses, parce que les autres disent « bah oui, on sait comment ça se passe ».
Oui, l'une des grandes difficultés, on appelle ça chez nous des vulnérabilités. Nous aidons les parents multiples à traverser ces moments de vulnérabilité passagère. Recevoir 2-3 enfants du même âge en même temps, c'est un tsunami dans les familles. C'est un tsunami parce que nous aidons les parents à éviter l'épuisement physique, le nombre de gestes, le nombre de couches, le nombre de biberons, dans les premiers mois sont hallucinants. Et ensuite...
Parce qu'on est évidemment beaucoup moins aidés que dans des sociétés du Sud. Hein.
Alors, justement, nous aidons aussi les familles à revenir sur ce concept-là. Il faut se faire aider. Les familles sont relativement plus isolées, je dirais.
Vous voulez dire revenir sur ce concept parce que, finalement, dans la tête d'une maman, il faut soi-même s'occuper de son enfant, dans une société européenne.
Typiquement, en France, en tout cas, et dans une société européenne, pour être une bonne mère, il faut élever seule ses enfants. Sinon, le regard des autres...
En tout cas, pour les enfants en bas âge,
parce que
le taux d'activité des femmes est très important.
Voilà, il faut savoir faire avec ses enfants et se montrer forte. Oui. Or, ce que nous essayons de promouvoir dans notre mouvement, c'est que il n'y a pas de honte à se faire aider, et même au contraire. Hein, les services à la personne sont là pour aider les mamans, pour éviter l'épuisement physique et l'épuisement moral.
Alors justement, vous parlez des grossesses gémelles. Alors, on a une maman de jumelles qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Muriel.
Bonjour Emmanuel.
Vous nous avez appelé, vous êtes une maman de jumelles et vous attendez un troisième enfant.
Oui, c'est exact. J'ai 2 petites jumelles qui ont maintenant 2 ans et demi.
Oui.
Et donc, j'attends un troisième enfant. C'est donc une chose sûre maintenant, donc il n'y en a qu'un. Un petit singleton, on est très heureux et donc on arrive dans cette famille nombreuse, cette fameuse famille nombreuse, famille heureuse. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'interrogations qui arrivent au même titre que quand j'ai eu mes jumelles finalement. Parce que c'est vrai que c'est comme disait Nathalie Lacombe-Mérian, c'est un tsunami d'avoir des jumeaux. Mais alors, c'est aussi un autoroute finalement vers la famille nombreuse parce que, un petit troisième arrive et on est très heureux.
Ça sera la routine pour vous, c'est ça finalement, hein, après le tsunami.
Un peu finger in the nose, c'est vrai.
C'est ça.
Oui, tout à fait.
Donc les jumeaux ne vous ont pas découragé ?
Oh, ça a été très difficile, hein. Il y a eu plusieurs étapes. Je pense que Nathalie pourra confirmer, mais c'est vrai que la première année, en tout cas, est très très difficile au niveau du rythme. Et c'est vrai que c'est très physique, même si on est très heureux. Il est sûr que...
Avant d'avoir des enfants, Muriel, vous aviez décidé, planifié, verbalisé ce choix d'avoir 3 enfants ?
Non, alors on espérait déjà avoir un enfant tout court.
Oui.
Et puis forcément, comme on ne choisit pas la nature, et ça le maître.
Mais votre idéal, ça reste la famille de 3 enfants pour vous, Muriel, en France ?
Je n'avais aucun désir particulier,
d'accord,
en fait. Pour être honnête, on a eu 2 enfants, ce fut déjà une surprise à la base. Et puis on s'y est fait, et puis finalement, c'est vraiment quelque chose de fantastique d'en avoir 2 en même temps. Enfin, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il est partagé. Et puis finalement, je suis super heureuse de pouvoir expérimenter un petit peu le fait d'avoir un enfant, cette relation un peu exclusive, si vous voulez, que l'on a avec un singleton.
Oui, vous allez découvrir la relation exclusive, comme vous dites, avec un singleton. C'est pas un mot qu'on emploie très couramment. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Muriel. Globalement, je voudrais poser la question à l'ensemble de nos invités. Finalement, du nord au sud, est-ce qu'il y a souvent un décalage entre ce que l'on imagine être la taille de la famille idéale et le nombre d'enfants que l'on va avoir dans la réalité? Parce que vous disiez bien, Nathalie Lacombe-Mérian, on croit pouvoir choisir, même dans les pays riches où on a accès à la contraception, etc. En réalité, quelle est la réalité du choix?
La réalité du choix, elle est difficile à cerner. Il me semble avoir reçu beaucoup de confidences parmi mes amis. Et finalement, nous pensions avoir décidé de faire des études, faire carrière, fonder une famille. Et je crois que nous avions toutes dans la tête un nombre d'enfants, et nous sommes quasiment toutes à moins un ou moins deux. On n'a pas la taille.
Vous avez deux jumeaux et vous avez une famille recomposée.
Alors,
donc deux enfants,
j'ai la chance
de votre conjoint,
c'est
ça.
De faire partie d'une famille recomposée. Donc moi, j'ai ma famille idéale. La seule chose que je ne voulais pas, c'est d'avoir un enfant unique. Parce que je trouvais que les relations étaient finalement sympathiques, mais peu nombreuses. Il me semblait que c'était plus riche d'avoir plusieurs enfants.
Isabelle Robert Bobet, est-ce qu'il y a un décalage entre le nombre d'enfants idéal et puis la réalité dans la démographie, dans les statistiques?
Alors, c'est vrai qu'à l'INSEE, on regarde plutôt du coup les constats plutôt que les aspirations des personnes, mais je peux peut-être rebondir sur cette question sur l'activité des femmes. Et ce qu'on observe aujourd'hui en Europe et dans les pays occidentaux, c'est qu'il y a eu un renversement de tendance. On observe qu'aujourd'hui, la fécondité, elle est la plus élevée dans les pays où les femmes peuvent travailler, où le taux d'emploi des femmes est le plus élevé. Alors que dans les années 60, c'était l'inverse. C'était plutôt dans les pays où les femmes travaillaient le moins que la fécondité était la plus forte. Donc on peut y voir aussi des changements dans les aspirations potentiellement des personnes. Et s'il y a un arbitrage finalement à faire entre travailler ou avoir des enfants, ben l'arbitrage, il peut se faire du coup sur le choix des enfants.
Si on prend des pays comme le Japon et comme l'Allemagne, où on fait très peu d'enfants, ça fait partie des natalités, des taux de fécondité très, très bas, et les femmes travaillent peu.
On est dans des pays, voilà, où ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que du coup, dans les pays où il y a une difficulté potentiellement à travailler et à avoir des enfants en parallèle, du coup, on a plutôt une fécondité qui est basse.
Mais il n'est pas rare dans les pays en Allemagne ou au Japon d'avoir une mère au foyer pour, entre guillemets, un seul enfant.
Oui, c'est pas incompatible en fait. Ouais. C'est l'idée que du coup, s'il fallait choisir,
C'est perçu assez curieusement en France, par exemple, d'être mère au foyer pour entre guillemets un seul enfant.
On a en France une relation à l'activité qui peut être différente, qui passe beaucoup par s'arrêter temporairement de travailler. Et on a beaucoup d'arrêts temporaires en France pour s'occuper des enfants, y compris du premier.
Je reste sur cette question-là pour vous, Jean-Pierre Guingamp, pour la natalité en Afrique. Finalement, est-ce qu'il y a un décalage entre ce que l'on imagine être la taille de la famille idéale et le nombre d'enfants que l'on a dans la réalité? Alors, maintenant, aujourd'hui, en Afrique?
Lorsqu'on regarde la centaine d'enquêtes où on a des données dans le monde, il y a une corrélation très nette entre le nombre idéal d'enfants et la fécondité observée. Alors, il y a toujours le nombre idéal d'enfants est toujours supérieur au nombre, est toujours légèrement supérieur au nombre d'enfants que les femmes ont.
Donc, de l'Afrique à l'Europe, partout finalement.
Oui, partout dans le monde. Oui, il y a une très très forte corrélation. Alors, par rapport à l'emploi que l'on vient de le phénomène de l'emploi que l'on vient de mentionner, ce qu'il faut savoir, c'est que en Afrique, par exemple, bon, la plupart des femmes travaillent, mais bien souvent elles travaillent comme on dit, aide familiale dans les exploitations agricoles, etc. Donc, elles travaillent. Mais le fait qu'il s'agisse d'emplois soit dans l'agriculture, soit dans le petit commerce, etc., ça veut dire qu'on peut amener les enfants avec soi, dans le dos, etc., etc. Donc, il n'y a pas de rupture dans la plupart des sociétés africaines entre le travail, en tout cas le travail dans les secteurs traditionnels, et le fait d'avoir des enfants. Mais il y a une forte corrélation. Et ça veut dire en fait que les femmes africaines en particulier, intériorisent volontairement ou non les normes dominantes, etc. Mais comme l'a montré les divers témoignages, on est actuellement en Afrique en plein débat. On a eu parmi les témoignages un jeune homme qui veut avoir qu'un enfant et un autre qui veut en avoir 8. Ça veut dire que le débat est ouvert.
Tout à fait. Je vous lis le message d'Étienne qui est à Kinshasa, qui nous dit: en Afrique, la notion de famille change, mais il faut toujours qu'elle soit nombreuse. Seulement, c'est vrai qu'on ne sait jamais qui est l'enfant de qui, nous dit Étienne. Par exemple, je ne fais aucune distinction, moi, entre mon enfant, celui de ma sœur, celui du cousin de ma femme. Ce sont tous mes enfants de sang. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, Étienne aura autant d'enfants que ses propres parents. Ou Donatien, qui est à Mbujimayi en République démocratique du Congo, qui nous dit: la petite famille est bonne, dans le sens où cela permet d'être équilibré et de gérer ses ressources. Chez nous, le père est souvent polygame et donc a du mal à répondre aux besoins de tous ses enfants. Je précise que la polygamie n'est pas spécifique à la religion musulmane, mais est également présente dans l'Afrique chrétienne. On serait tenté, Jean-Pierre Guingamp, de penser que la polygamie n'a pas d'incidence sur la natalité, puisque c'est le mari qui a plusieurs femmes, et donc la femme elle-même pourrait en principe avoir le même nombre d'enfants, mais en réalité il y a une incidence.
Alors là, c'est discuté, mais apparemment il n'y a pas trop d'incidence, mais la polygamie, elle a une incidence, c'est qu'elle reflète quand même une position inférieure de la femme. Parce que bien souvent, l'union polygame, ce n'est pas la femme qui le choisit, mais c'est l'homme qui l'impose à la femme.
Donc moins le droit à la parole pour limiter éventuellement les naissances. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Quelle est la taille de la famille idéale pour vous?
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble, c'est votre vie au quotidien.
Sept milliards de voisins et la planète se barre.
Une voisine nous appelle de Paris. Bonjour Mina.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux invités.
Alors, quelle est votre histoire, la taille de votre famille, celle que vous souhaitez avoir ou que vous avez déjà, je ne sais pas.
Pas encore déjà. Alors moi, je suis ici d'une famille de 15 enfants. Alors j'ai 8 frères et au niveau des filles, on est 7 filles.
Ouais.
Et moi, pour ma part, au niveau de la question, moi, je voudrais 2 enfants.
Ah,
que
d'accord.
Je considère que quand on a beaucoup d'enfants, on décharge beaucoup la responsabilité aux aînés, ensuite quand les plus grands, et quand aux plus petits. Et quand les plus petits, en fait, grandissent, on leur redonne la charge des plus petits. Et pour ma part, moi, ça a créé un énorme stress à m'occuper de mes petits frères et sœurs. Et c'est vrai que j'ai beaucoup bloqué dans le fait où je me disais que moi, j'aurais pas d'enfant. Parce que tout le stress de la maman, en fait, moi, je l'avais déjà, étant plus jeune. Et ça m'a un peu bloqué. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Bon, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, j'aimerais en avoir, mais assez difficilement, les deux.
Oui, en tout cas, vous serez probablement très opérationnel très vite. Hein. Vous avez déjà une longue expérience, mais une expérience que vous avez finalement assez mal vécue lorsque vous étiez lycéenne, notamment, non, peut-être?
Je ne disais pas mal vécue parce que je le faisais. Et je faisais bien mon rôle.
Mais c'était des responsabilités trop lourdes pour vos épaules, finalement.
Ah, lourdes, oui, quand même.
Oui. Vous avez dit au standard que vous étiez originaire d'une famille sénégalaise, hein?
Oui.
Alors, vous posez une question intéressante. Je m'adresse à vous, Isabelle Robert Bobet. Alors, en France, statistiquement, on observe que les familles immigrées ont plus d'enfants que les familles françaises, hein, des familles immigrées qui sont arrivées au cours de la construction de leur famille ou qui sont arrivées jeunes. Mais pour les enfants d'immigrés, qu'en est-il?
Ce qu'on observe, c'est que les immigrés, c'est-à-dire que ce qu'on appelle immigrés, ce sont les personnes qui sont nées à l'étranger et qui avaient une nationalité étrangère à la naissance, on observe qu'elles ont plus d'enfants que les personnes qui sont sans lien à la migration. Mais ce qu'on appelle les descendants d'immigrés, c'est-à-dire les personnes qui sont nées en France et qui ont leur père ou leur mère, ou les deux, qui sont immigrés, là, il n'y a pas de différence en termes de fécondité avec les personnes qui sont sans lien à la migration.
Oui. C'est exactement le cas de Mina. Elle se projette exactement comme n'importe quel autre Français, finalement.
Donc, en fait, il y a, quelque part, une fécondité qui est parfois intermédiaire entre son pays d'origine et le pays d'accueil dans lequel on vit. On va observer que pour les personnes qui sont nées à l'étranger, on a souvent une fécondité qui est un peu plus élevée si elles viennent d'un pays où il y avait une forte fécondité élevée qu'en France. Et après, pour les enfants de ces personnes immigrées, on n'observe plus de différence en termes de fécondité.
Oui. Yves, par exemple, à Abidjan, nous dit « La taille idéale d'une famille, c'est deux enfants. Je suis peut-être influencée par le choix de mes parents, mais je trouve qu'ils ont très bien élevé leurs enfants, même s'ils n'en ont eu que deux. » Voilà, donc Yves s'envoie quelques petites fleurs en même temps, puisqu'elle se trouve très bien élevée, mais c'est un joli témoignage. Mina, néanmoins, j'imagine que quand même de grandir dans cette grande fratrie, ça a dû apporter aussi des bons souvenirs, des moments de joie ou de rire, évidemment,
oui,
assez partagés.
Hein. Effectivement, une grande complicité, une ambiance, après des traits de caractère très différents.
Ouais.
Après, quand on grandit, certains ont plus d'affinité avec d'autres, d'autres moins, mais il y a toujours le respect parce qu'il y a aussi quand même l'éducation de nos parents. Même si on a vécu, on va dire, on a manqué de rien, entre guillemets, on a eu à manger, une éducation. C'est vrai que pour faire des études supérieures ou autres, il fallait retravailler à côté pour pouvoir, on va dire, se payer ses affaires. Ouais. Mais dans le sens, dans une bonne ambiance et dans une bonne énergie. Ouais. Après, voilà, j'en garde des bons souvenirs, mais pour ma part, pour gérer mes enfants.
Ça sera deux enfants, on a bien compris. Oui.
Ce sera que deux.
On vous souhaite tout le bonheur du monde, en tout cas, Mina. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Jean-Pierre Guingamp, la transition démographique, les familles plus petites sur le continent subsaharien. Alors, c'est pour quand ?
Alors, les Nations Unies font des projections tendancielles et ces projections tendancielles indiquent, pour l'hypothèse moyenne, qu'à l'horizon 2100, la moyenne pourrait être de deux enfants par femme en Afrique. Mais à ce moment-là, l'Afrique aurait 3 milliards d'habitants contre 1 milliard aujourd'hui. Mais en fait, le résultat, il peut être entre 1,6, 1,7 et 2,7, 2,8. Et ça va dépendre du débat à l'intérieur des sociétés africaines sur cette question. Débat qui est encore largement absent, occulté par les pouvoirs publics.
Débat au sein des couples et au sein des hommes et des femmes, on l'a bien compris. C'est tout le mystère de la démographie, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Jean-Pierre Guingamp. Vous êtes démographe et économiste à Paris 1 Sorbonne. Isabelle Robert-Bobet, vous appartenez à l'INSEE en tant que démographe. Nathalie Lacombe-Mérian, c'est la Fédération Jumeaux et Plus, bien sûr, à retrouver sur Internet, où on peut avoir évidemment pas mal d'infos pratiques lorsque l'on attend des grossesses multiples ou qu'on est déjà dans le grand bain. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi pour l'accueil technique des auditeurs. À toutes vos réactions, c'est à 7milliards@rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de l'émission sur le financement participatif ou cagnotte sur Internet. Peut-il tout financer ? À demain, les voisins et les voisines.
Parlez-vous Paris.